France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La police technique et scientifique. Notre désir d'identification des auteurs de crimes et délits est dopé par les progrès techniques et scientifiques. Dans la police, des spécialités se sont développées qui font progresser le taux d'élucidation. À la police technique, la charge de relever systématiquement les traces, les indices sur la scène du constat du crime. À la police scientifique, le travail minutieux d'appliquer à ces éléments recueillis un registre de plus en plus vaste de méthodes d'examen. Nous avions un corps, une tête, une âme, peut-être, mais maintenant, la peau, le sang, les os, les urines, la salive, les dents, les cheveux, les ongles sont les preuves possibles d'une nouvelle vérité. L'organisme humain a dorénavant une dimension criminologique. Et la police technique et scientifique vieille seulement de 120 ou 130 ans, un horizon vertigineux. Devant elle, dont va nous parler aujourd'hui Jean-Marc Berlière. Bonjour.
Bonjour.
Éminent historien des polices, vous êtes le co-auteur de l'histoire des polices en France, c'est aux éditions Nouveau Monde, et co-ordonnateur d'une exposition fichée qui a lieu jusqu'à la fin de l'année aux Archives nationales. Donc vous êtes un grand croqueur d'archives et j'imagine un grand lecteur de polars d'autrefois.
Il y a un tas de pauvres gens qui écrivent des romans policiers pour gagner leur vie. C'est pas un métier beaucoup plus malhonnête qu'un autre. Mais ça implique malheureusement une effroyable ignorance technique. Je crois que pour avoir le droit d'écrire des romans policiers, il faudrait faire un stage pendant quelque temps dans un laboratoire de police. Ça éviterait de voir dans des romans des gens qui déterminent la nature d'un poison en flairant les lèvres de la victime, et aussi les gens qui poussent des clameurs de joie parce qu'ils ont découvert une empreinte digitale sur un faux col ou sur leur verre d'un veston, alors qu'il n'y a jamais d'empreinte digitale ni sur le linge ni sur les vêtements.
À Edmond Locard, qui est un des pionniers de la police technique et scientifique, vous pourriez répondre, Jean-Marc Berlière, moi j'ai un pied dans les labos, j'ai un pied dans les commissariats.
Comme les policiers d'ailleurs, hein. Quand un personnage par exemple aussi fascinant qu'est le commissaire Marcel Sicot, qui commence sa carrière dans les années 20, revient enthousiaste dans son service parce qu'il vient de suivre les cours de police technique et scientifique à la préfecture de police, il est complètement douché par son chef de service qui lui dit « n'ayez pas d'illusions, la science sert peut-être à élucider une ou deux affaires par an, mais elle ne sert jamais par rapport au témoignage, à l'enquête traditionnelle. » Donc on a plus un pied, si vous voulez, à la limite, dans la police judiciaire que dans les laboratoires.
Dites-moi, historien des polices, c'est un métier pas plus malhonnête qu'un autre ?
Non, d'autant qu'on le devient un peu par hasard, si vous voulez, hein, parce qu'on découvre un grand vide, comment interroger l'État et la société sans interroger la police, et quand on cherche quelque chose qui existe sur l'histoire des polices, on trouve un grand vide historiographique.
Non, je dis ça parce que le soupçon règne sur cette spécialité, sur le métier de policier aussi. Le directeur général de la police nationale d'aujourd'hui, M. Pechenard, avait un père avocat et proustien qui lui disait, quand il s'est présenté au concours de commissaire de police, je suis partagé entre deux hontes. La honte que tu sois peut-être recalé et sûrement la honte que tu présentes ce concours de policier.
Ah, il est certain que la police jouit, si j'ose dire, d'une image extrêmement noire en France, ne serait-ce que sans doute à cause de ces deux pères tutélaires, dont on peut rappeler le nom. C'est d'un côté Fouché, et Dieu sait si c'est le père de la police politique de provocation ou autre, et l'autre, c'est quand même un bagnard, un authentique bandit, un repris de justice qui s'appelle François Vidocq, et c'est lui le créateur de la police judiciaire.
Oui, mais là, on va arriver à l'époque de la Troisième République, ce sera le premier pan de notre étude de la politique, de la police technique et scientifique. Nous sommes dans les années 1880, donc la police doit être républicaine. Elle ne doit pas ressembler à celle de Vidocq, trouble elle, elle à celle doit, de Fouché.
Elle doit être, c'est un vrai problème. Hein, les gens de la Troisième République, quand ils arrivent au pouvoir, vous imaginez l'héritage qu'ils trouvent. C'est une police, une institution complètement napoléonienne, avec une image extrêmement noire, relisée Vallès, parlant des Sergots. Et donc, ils arrivent avec un tel angélisme, d'ailleurs, que le premier préfet de police de la Troisième République propose de supprimer la préfecture de police. Ça n'a duré que quelques semaines, bien sûr, cet angélisme. Mais ils vont découvrir que la police a un rôle, effectivement, dans la République. C'est de défendre un régime qui est extrêmement fragile, la démocratie. Et c'est d'autre part également le faire avec des méthodes qui ne seraient pas en contradiction avec cette loi des lois de la République, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Et puis la République, c'est le progrès scientifique. Alors voici un personnage tutélaire. C'est Alphonse Bertillon. Il a commencé comme obscur commis à la préfecture de police de Paris. Il est monté rapidement en responsabilité en mettant au point un vaste système de fiches anthropométriques et photographiques.
Cette semaine, les policiers anglais m'ont fait perdre 2 jours en m'abattant les oreilles avec les empreintes digitales. Oui, c'est la dernière trouvaille à la mode. Je sais bien que chacun de nous possède des empreintes spécifiques. La belle affaire, on ne peut ni les mesurer ni les classer. Seuls mes travaux comptent. Il y a déjà 5 millions de fiches.
Si je comprends bien, mon ami, vous allez repasser à la préfecture en fin de journée.
Ah, oui, je dois veiller moi-même au classement. Et il y a tant de choses à découvrir. Justement, je suis en train de mettre au point un appareil photographique qui permettra d'obtenir des clichés mathématiquement exacts. Vous imaginez son importance pour bien fixer les lieux d'un crime, par exemple ? Avec une simple photographie, on pourra vérifier la distance exacte qui sépare le cadavre de tel meuble ou de tel objet et d'en tirer des conclusions utiles. La photographie métrique sera la mémoire scientifique, infaillible de la justice.
Une dramatique des dossiers de l'écran en 1980.
Alphonse Bertillon.
Un siècle après.
Comme vous le rappelez, il entre comme commis auxiliaire aux écritures. En fait, l'obsession de l'époque, et qui est très semblable à la nôtre, c'est l'insécurité. Et c'est une découverte qui a bouleversé aussi bien les pénalistes que ce qu'on va appeler les anthropologues spécialistes du crime. C'est la récidive. Et la grande question à une époque où il n'y a pas de papier d'identité, c'est d'identifier sous des noms différents, à des époques différentes, le même individu auteur de crimes semblables dans des endroits différents.
Alors, par la mesure d'indication sur le squelette et par la photographie objective.
L'idée de Bertillon, c'est effectivement l'identité anthropométrique, c'est-à-dire qu'à partir d'une vingtaine d'années, le squelette ne subit plus de variations. Et comme il est passionné par l'ostéopathie et en même temps la statistique, hein, il est le petit-fils d'Achille Guillard, l'inventeur de la démographie, il s'est lancé dans des courbe de Kettler et a démontré que finalement, avec une coïncidence d'un certain nombre de mesures, la tête, le tronc, la coudée gauche, le pied, le médius, on avait un risque sur 19 000, un peu moins de 20 000, de tomber sur le même individu. Et donc, il croit avoir trouvé la solution à l'identification des récidivistes et il le démontre avec beaucoup de chance dès 1883 et à partir de là, son prestige international va être immense.
Il constitue des fichiers qui regroupent tous ces documents. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot fichier qui est à utiliser. Ce sont les fiches, en tout cas.
Et, oui, des fiches qui existaient avant, mais qui, évidemment, étaient inutilisables, puisque finalement, les gens étaient tous moyens, présentaient des visages ovales, des yeux moyens, etc. Et son idée, lui, c'est bien sûr donc des mesures extrêmement précises. Et donc, tous les prévenus qui passent au départ par le dépôt de la préfecture, mais ensuite dans toutes les prisons de France, sont donc signalisés, comme on dira plus tard, bertillonnés.
Exposition fichée aux Archives nationales, on voit beaucoup des photos qui sont prises à la préfecture de police dans une pièce avec verrière. Sous contrainte ou alors avec une violence douce au moins ?
Ah, c'est très compliqué. On a été très impressionné avec Pierre Fournier, l'autre commissaire de cette exposition, de regarder l'expression, vous savez, de ces photos qui sont très belles par ailleurs. Alors, on voit très nettement des gens qui sont angoissés, qui on sent une panique, on sent quelque chose de très grave dans leurs yeux, et d'autres sourient. Et on s'est interrogé là-dessus. Il faut quand même se souvenir que c'est Milan Kundera qui écrit dans L'insoutenable légèreté de l'être que notre seule immortalité est dans les fichiers de police et que d'une certaine manière, des gens qui n'avaient pas accès à la photographie, parce qu'une photo, un portrait, ça coûte 5 francs par photo à l'époque, c'est-à-dire plus qu'une journée de salaire, et sont photographiés. Quelque part, il y a quelque chose, il y a un rapport entre le photographié et le photographe.
Ils sont impressionnés qu'on prenne soin d'eux à la Sûreté parisienne, à la brigade criminelle, laquelle est fixe à la préfecture de police, mais à partir de Clémenceau, ministre de l'Intérieur en 1907, il y a sur le terrain des brigades mobiles idéalisées par la télévision, les brigades du Tigre.
Aucune empreinte ne trouve au monde sa semblable. Cette poudre extrêmement fine et adhérente va permettre de nous les révéler sur les parties lisses des objets où elles ont été apposées. Vous imaginez l'intérêt capital de ce procédé pour l'identification criminelle. Il suffira d'établir un catalogue des empreintes, un fichier central des criminels connus, et de comparer avec ce fichier les empreintes relevées lors d'un vol ou d'un crime.
Regarde l'objectif, Barry. Bon, tourne-toi maintenant.
Donne-moi ta main.
Inutile de t'obstiner, Barry. Regarde, ça c'est tes empreintes digitales.
Et ça, c'est celles qui ont été relevées à la banque.
Et comme par hasard, elles sont identiques. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça?
J'ai rien à dire, moi, je suis innocent.
Au fichier anthropométrique va vite succéder le fichier dactyloscopique. Dactyloscopie, la technique des empreintes digitales. Et ça, c'est pas une invention de Bertillon.
Pas du tout, il y est même assez hostile, il faut bien le dire, parce que c'est le système concurrent du sien, mais c'est un système très supérieur au sien, parce que finalement l'anthropométrie, c'est-à-dire les mesures osseuses, la coïncidence de 9 ou même de 11 mesures osseuses ne permettait que de différencier deux personnes différentes, mais en aucun cas la correspondance de toutes ces mesures ne prouvait l'identité des deux personnes mesurées. On a tous des jumeaux anthropométriques. Alors qu'en revanche, les dessins que nous portons à l'extrémité de nos crêtes papillaires, qui sont différents d'un doigt à l'autre, qui sont différents d'un homme à l'autre, qui sont déjà dessinés dans la vie intra-utérine et qui continuent jusqu'à la putréfaction du corps, étaient la preuve. La preuve, et pas seulement policière, hein, ça touche à l'anthropologie, à l'épistémologie, à la philosophie, de l'identité.
C'est tellement convaincant ce que vous dites que même Bertillon s'y est rallié. Alors Bertillon n'a pas tout trouvé, Bertillon a fait des erreurs, et pourtant vous écrivez dans votre histoire des polices, chez Nouveau Monde, avec M. Lévy, votre coturne, c'est le symétrique pour la République de Pasteur.
C'est l'image, c'est sa réputation. Hein. Quand on lit les articles dans la presse, ils sont dithyrambiques. Effectivement, on met Bertillon sur le même piédestal que Pasteur. L'un, par la découverte des microbes, semblait promettre un monde sans maladie. L'autre, par l'anthropométrie et son fichage de plus en plus précis, par l'invention de la photographie anthropométrique, du signalement descriptif, etc., semblait promettre l'absence d'impunité pour les criminels, donc à terme un monde sans criminels.
Oui, je suis un expert, je peux vous dire ceci à coup sûr. On entend ce langage aujourd'hui, il s'est trompé. Dans l'affaire Dreyfus, quand on l'a appelé comme expert.
Très inquiétant, la figure de l'expert qui arrive devant un tribunal, devant un jury, en tenant des propos que je pense les jurés ne comprennent pas, mais auxquels ils font totalement confiance. Alors la preuve éclatante, effectivement, d'ailleurs ça va lui valoir quand même des volées de bois vert de la part de ceux qui l'admiraient, c'est bien sûr cette lamentable erreur. Qui se trompe, ça peut arriver, mais l'obstination dans l'erreur, quand il a voulu à toute force identifier l'écriture du capitaine Dreyfus dans celle du bordereau, dont on sait très bien qu'il était décrit par Esterhazy. Et quand on lui apporte la preuve que c'est Esterhazy qui écrit ça, il a cette phrase extraordinaire. Le syndicat, comprenez les gens qui défendent ce juif Dreyfus, ont payé quelqu'un pour imiter l'écriture de Dreyfus.
Double rêve de la République, il pourrait y avoir une société sans épidémie. La vaccination, Pasteur, comme il pourrait y avoir une société sans criminels libres. Le docteur Piedelèvre, lointain successeur de Bertillon, docteur S. criminalistique.
On trouve un jour une vieille femme assassinée dans son lit. Elle s'est tirée, soi-disant, une balle de revolver dans le cœur. Et elle tient le revolver dans sa main, à l'envers, c'est-à-dire le pouce sur la gâchette, comme on fait souvent dans ces cas de suicide. On fait l'autopsie. On trouve une balle en plomb. Et sur les balles en plomb, l'empreinte des étoffes traversées par la balle s'imprime. Or, c'est toujours l'empreinte de la première étoffe traversée qui se marque sur la balle. Or, cette femme était vêtue d'une camisole, c'était une vieille étoffe, en pilou et d'une chemise en toile. Par conséquent, l'empreinte du pilou devait se trouver sur la balle. Or, les deux étoffes ayant été traversées, c'était l'empreinte de la toile. On pouvait en déduire que c'était en réalité un assassinat. On l'avait déshabillée pour la fouiller et les assassins s'étaient trompés en la rhabillant et avaient mis d'abord le corsage en pilou sur la peau, puis la toile par-dessus. Et ils avaient voulu maquiller leur crime en mettant le revolver dans la main de cette femme.
Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on était fortiche. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a rappliqué en murmurant
sa cloche. Je sais pas où il est passé.
Hein? Arthur, où t'as mis le corps quand c'était créé un cœur?
Ben, je sais plus où j'ai foutu les mecs.
Arthur réfléchit, non de là. Ça a une certaine importance.
Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle pas. Que je l'ai mis.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
La police technique et scientifique avec le concours lointain de Serge Reggiani et la présence ici de Jean-Marc Berlière, coordonnateur de l'exposition Fichée aux Archives nationales, co-auteur aux éditions Nouveau Monde d'une histoire des polices. Quand on a tellement de grands hommes qui portent la police technique et scientifique, on dort un peu sur les héritages. Il y a un certain retard quand intervient la date décisive de 1940.
Vous avez raison. La France était pionnière dans ce domaine, parce qu'on peut considérer que le service de l'identité judiciaire confié à Bertillon par le préfet Lépine en 1893 a été le premier laboratoire de police technique et scientifique, porteur, comme on l'a vu, d'une illusion, d'une police propre, d'une police infaillible. Et puis après la mort du commandeur, j'allais dire, sa statue, l'ombre portée de la statue, explique en partie le retard pris par la France, qui s'accumule petit à petit. En dehors donc du laboratoire de Parisien, donc à la préfecture de police, le seul laboratoire qui existe, est celui de Lyon, du docteur Locard.
Ah, c'est alors, une capitale, Lyon. C'est une capitale de la résistance. L'État français, lui, grâce lui soit rendue, et notamment à l'un de ses excellents serviteurs, René Bousquet, unifie le service, les services de politique. De police technique et scientifique.
Et ce qui est intéressant dans votre lapsus, c'est que l'État français, qui est un État autoritaire, anti-républicain, anti-démocratique, hein, a besoin d'une police forte, d'une police unifiée, d'une police bien dans la main du gouvernement, et donc va être à l'initiative, à l'origine, d'un certain nombre de réformes sur lesquelles nous vivons encore, c'est-à-dire la création de la police nationale, l'étatisation de toutes ces centaines de polices différentes qui étaient des polices à statut municipal, hein, celle de Carcassonne, différait de celle de Saint-Étienne, elle n'avait pas plus de rapport avec celle de Perpignan ou celle de Lons-le-Saunier. C'est fini. Et dans les mesures dont on peut créditer, parce que Vichy n'a pas fait non plus que de mauvaises choses, ne le dites pas, ne le répétez pas surtout, il y a effectivement cet acte d'Illoy de Vichy de 1943 qui crée une dizaine, huit je crois, laboratoires régionaux de police scientifique.
Peut-être Vichy a-t-il créé trop de fichiers. D'ailleurs, c'est une maladie française. Le nombre de fichiers. Par exemple, en mars 68, quand Maurice Papon quitte la préfecture de police de Paris, il y a 132 fichiers. L'étape suivante, c'est la centralisation, l'interconnexion et l'informatisation de tous ces fichiers.
La tentation est grande, puisqu'on a entendu la voix d'Edmond Locard. Répétons, Locard a été, qui est un républicain, qui est un progressiste par rapport à Bertillon. Locard n'a pas arrêté de dire, pour que la police technique et scientifique soit efficace, il nous faut des fichiers de référence. Et plus on a de fiches, plus on a de chances d'identifier des empreintes ou des traces sur une scène de crime. Et donc il conseillait dans un texte que je cite dans ce livre, parce qu'il c'est ahurissant, de prendre les empreintes, par exemple, des enfants faisant l'école buissonnière, parce que c'est de la graine d'apache, précise-t-il. Donc, vous avez raison, ces fichiers, chaque service va monter son fichier, parce que un service, par exemple, de voie publique a besoin de savoir comment travaillent les pickpockets et va faire des fichiers de spécialité.
Et à peine a-t-on créé un système central, le STIC, système de traitement des informations constatées qu'on voit proliférer clandestinement d'abord, et puis ils arrivent au jour, toutes sortes de fichiers différents. L'informatisation difficile des empreintes digitales est à peine effectuée, qu'on passe à la recherche des empreintes génétiques. S'il y a un fichier important, c'est celui qui est créé en 1998, après l'affaire de Plaine-Fougère, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Caroline Dickinson avait été violée et tuée dans une auberge de jeunesse d'Ille-et-Vilaine. Un SDF interpellé avait avoué, mais les résultats ADN l'innocentaient. Le juge Van Runbeck, déjà, était à la manœuvre. Un routier espagnol a été identifié aux États-Unis. Voici le journal télévisé de Benoît Duquesne en 2011.
Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 15 avril. Soulagement à Plaine-Fougère, l'assassin présumé de la petite Caroline Dickinson et bien Francesco Arce Montes. Les tests ADN l'ont confirmé.
Aux yeux de la justice, Francisco Arce Montes serait donc bien le meurtrier présumé de Caroline Dickinson. Son patrimoine génétique se confond avec celui prélevé il y a 6 ans sur le corps de la jeune Anglaise. Les analyses d'ADN pratiquées par ce laboratoire de la police scientifique de Paris ont relevé 16 marqueurs identiques, alors que 7 suffisent à établir une certitude devant les tribunaux.
À Plaine-Fougère, depuis 5 ans, les habitants suivaient cette enquête avec attention. Le village va enfin pouvoir tourner la page.
La population est soulagée à la hauteur de l'épreuve qu'elle a subie. Ainsi, en 1997, le juge Van Ruimbeck demandait à toute la population masculine d'accepter de subir un test ADN.
D'une manière rétroactive, on peut penser que quelque part, il avait raison de s'attacher au test ADN. C'était pas évident sans doute pour lui de faire une première pour ses tests à Plaine-Fougère. Je crois que ça lui donne aujourd'hui raison.
Avril 2001, donc 5 ans après le début de l'affaire à Plaine-Fougère. C'était le maire qu'on entendait.
Exemple tout à fait passionnant, puisqu'on y voit à la fois toutes les avancées et toutes les limites de cette police technique et scientifique. Prenons l'exemple d'un viol. On découvre du sperme et donc une identité ADN sur la victime. Ça ne prouve en aucun cas que le personnage propriétaire, si j'ose dire, du sperme est l'assassin, bien sûr. Elle peut avoir fait l'amour avec son ami. Elle peut avoir été ensuite violée par quelqu'un qui a mis un préservatif. Donc, il faut se garder de ces illusions. Hein. La police technique et scientifique, c'est extraordinaire dans ce cas, parce que ça a permis d'innocenter effectivement un innocent. Mais pour le reste, toute trace, aussi compromettante soit-elle, ne prouve jamais la culpabilité. Il faudra pour la prouver, tout un tas de choses qui font partie de l'enquête, qui sont le recoupement des témoignages, qui sont le recoupement des emplois du temps, qui sont éventuellement ce dont on espérait faire l'économie jadis, c'est-à-dire l'aveu.
Illusion récurrente, questionnement récurrent, faut-il conserver les données visant les simples suspects? Je parle toujours du fichier national automatisé des empreintes génétiques. Faut-il élargir à toutes sortes d'infractions beaucoup plus nombreuses que celles qui sont définies au départ en 1998? Faut-il punir de peine d'amende et d'emprisonnement ceux qui refusent le prélèvement, par exemple les faucheurs d'OGM sachant faucher mais refusant d'être fichés, ou bien les leaders syndicalistes Corse 2010?
Alain Mosconi et Félix Da Gregorio comparaissaient cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Bastia. Les deux marins du STC étaient poursuivis pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement ADN après l'affaire du détournement du Pascal Paoli en 2005.
Je ne suis ni Al Capone ni Marc Dutroux, précise Alain Mosconi. En 1998, ce fichage ne concernait que des personnes condamnées pour des crimes et délits sexuels sur mineurs. Progressivement, le fichier sera élargi. La défense en appelle au respect de la vie privée.
Nos clients ne portent atteinte à aucun intérêt d'une société démocratique. Et en ce sens, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas respecté.
L'article 8 qui prévoit notamment le respect de la vie privée et des libertés individuelles.
Oui, alors il y a les bornes, les législations européennes. En France, armée comme elle l'est, la Commission nationale informatique et liberté. Les fichiers, ils servent dans leur justification à dénicher les récidivistes, ce sont toujours les mêmes questions, les bien concernant sûr. Qui récidivent.
Bien sûr, bien sûr. Et c'est toujours, si vous voulez, ce débat infini entre la liberté et la sûreté. Ce qui est aux origines de ce fichier génétique, il faut qu'on s'en souvienne, c'est l'affaire de ce qu'on a appelé le tueur de l'Est parisien, Guy Georges, dont on possédait la signature génétique dans une armoire, mais on n'avait pas la possibilité, pas le droit, légalement, de comparer ces empreintes avec celles des nouveaux crimes commis. Et je me mets à la place, si vous voulez, des familles ou des parents des victimes ultérieures de Guy Georges, qu'on aurait pu donc identifier plusieurs années avant ces derniers crimes. On va comparer la France et les pays anglo-saxons. Les pays anglo-saxons qui n'ont pas du tout la réputation d'être des pays totalitaires. Il y a beaucoup plus de gens fichés, il y a beaucoup plus de fichiers génétiques qu'il n'y en a en France. Le problème, et vous le disiez bien, c'est une récurrence permanente. C'est pas tellement les fichiers, c'est l'usage qu'on en fait. Et là, on paye très cher le poids de l'histoire et le fichier juif et l'emploi qu'on en a fait sous Vichy, bien sûr.
Dites-moi, un historien de la police, Edouard Perret, beaucoup des faiblesses de la police, la force de la police, disait votre maître Fouché, c'est qu'on ignore ses faiblesses. Les taux d'erreur, les taux d'élucidation, les premiers sont souvent forts, les seconds sont souvent faibles. Et puis, il y a beaucoup de trous dans ces fichiers, beaucoup de goulots d'étranglement.
Oui, et puis il y a quand même quelque chose dont je pense que dans les 30 secondes qui nous restent, il faut dire un mot. C'est une tendance lourde que canaliseront les historiens du futur. C'est l'autofichage. Ces gens qui vont sur des réseaux sociaux, pour ne citer que le plus célèbre Facebook, dire d'eux et publier d'eux de façon irrémédiable. On ne pourra plus enlever, n'importe qui a accès, contrairement à ce qu'on imagine, des données qui sont terriblement personnelles. Et qui, alors là, la vie privée, Article 8 de la Constitution.
Des données qu'on livre nous-mêmes et qui peuvent être conservées pour l'éternité du net.
Absolument, absolument. Et avec les usages que l'on connaît, ça peut être la sécurité sociale qui va vérifier si vous êtes réellement malade, ça peut être des chasseurs de tête qui vont vérifier quel est votre passé avant un éventuel entretien ou une éventuelle embauche.
Donc dans une procédure d'embauche, M. Guéant veut par exemple créer des réserves de police, des citoyens qui assureraient l'ordre dans leur quartier et on vérifierait leur casier judiciaire en cas d'embauche. On peut aller jusqu'où dans la vérification des données administratives ?
Ah ben, il y a des lois, si vous voulez, il y a des barrières, mais on sait bien qu'elles sont faites pour être transgressées. Et je n'imagine pas de même que dans cette exposition fichier, on a des fichiers patronaux. On a des fichiers de supporters de clubs de football et autres. Je n'imagine pas que des institutions chargées de la sécurité respectent infiniment ces barrières.
Oui, mais les barrières établies par les institutions administratives sont finalement plus fortes que celles établies par les particuliers, puisque ce sont les particuliers eux-mêmes qui dévoilent leurs particularités.
Oui, oui.
L'autofichage.
Vaste question.
Fichier, dites-moi, c'est une très belle exposition, c'est jusqu'au 27 décembre. Ça aurait pu être un très bon événement inaugural pour l'éventuelle maison de l'histoire de France, puisque ça se passe aux Archives nationales.
En quelque sorte, c'est une alternative à la maison de l'histoire de France.
Histoire des polices, c'est chez Nouveau Monde. Enfin, quand même, il y a quelque chose qui me rassure. On peut n'avoir rien qui reste, on échappe. Si on a été carbonisé au risque de l'identification, j'imagine.
L'émail dentaire est la partie la plus dure du corps humain. Elle va résister à la putréfaction, à la crémation, à l'enfouissement. À partir de là, quand une personne est retrouvée complètement carbonisée, il est bien évident qu'on ne pourra pas utiliser ses empreintes digitales, on ne pourra pas utiliser l'ADN, il ne restera plus que les critères dentaires.
Les experts vont procéder à une reconstitution du visage. Étape préliminaire, il doit faire bouillir le crâne durant 7 heures afin d'éliminer toutes les chairs restantes.
Je décourage les assassins en ce moment. J'ai l'impression qu'on n'arriverait pas à faire le crime absolument parfait. Que c'est une impossibilité matérielle.
L'émission a été préparée par Jacques Sigal, Frédéric Martin, Franck Olivard, Meryl Moneghetti, avec aujourd'hui à la technique Pascal Baldassari et Cédric Lalanne. Demain, nous parlerons de l'ombre d'Alexandre sur la Grèce et la Macédoine.